Il est 14h en temps universel, 16h à Paris et à Rome. Charlotte Hydrac, Le Journal, bonjour.
Bonjour, à demain, Pascal Paradoux. L'Inde parle d'actions ciblées et mesurées après ses frappes sur le territoire pakistanais. Islamabad dénonce un acte de guerre et menace de représailles. Les appels au calme se suivent et se ressemblent. Le moteur franco-allemand relancé à Paris à l'occasion de la visite du tout nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz. Avec Emmanuel Macron, ils ont appelé à un nouveau départ dans la relation entre Paris et Berlin pour faire face aux défis que l'Europe affronte. Les cardinaux bientôt coupés du monde au Vatican pour le processus d'élection du nouveau pape. Ils s'enfermeront à la chapelle Sixtine, là, d'ici une demi-heure environ. Ce matin, lors d'une messe solennelle, le doyen des cardinaux a appelé à l'unité de l'Église. Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan, selon l'ONU. Réaction en chaîne un petit peu partout dans le monde pour appeler à la retenue, à la désescalade après des frappes indiennes sur le sol pakistanais. Frappes ciblées, selon New Delhi, contre des camps terroristes, mais Islamabad dénonce un acte de guerre. Ces frappes, suivies de tirs d'artillerie à la frontière, ont fait au moins 38 morts, bilan encore provisoire. C'est la pire confrontation entre les deux voisins, deux puissances nucléaires depuis 20 ans. Au Cachemire, région disputée, les habitants sont pris entre deux feux. Témoignage de Bilal Ahmad, 35 ans. Il habite la région indienne frontalière de Karnak.
Nous vivions déjà dans la peur des affrontements ces derniers jours. Quand notre armée, l'armée indienne, est intervenue à partir de 1h du matin, nous avons été saisis par la terreur. Des bruits de roquettes assourdissants nous ont réveillés pendant la nuit. En regardant les réseaux sociaux, nous avons compris que l'armée avait finalement attaqué le Pakistan. Après cela, nous sommes restés cloîtrés chez nous. Les tirs étaient intenses des deux côtés. On n'entendait que des explosions partout sans oser sortir. Le matin, nous avons constaté les dégâts dans notre région. Dans chaque village, au moins deux ou trois maisons ont été incendiées et des véhicules ont été endommagés par les tirs de représailles du Pakistan. Ce que nous avons vécu cette nuit-là, nous ne l'avions jamais vu de notre vie. Nous allons devoir maintenant vivre avec cette peur de la guerre. Mon père a été tué en 2003 par un bombardement similaire de la part du Pakistan.
Un témoignage recueilli par notre correspondant en Inde, Combastin. Un cessez-le-feu, mais pas pour tous, en mer Rouge. Après l'annonce d'une trêve entre les États-Unis et les rebelles houthis pour laisser passer les navires au large du Yémen, les houthis précisent que les bateaux israéliens ne sont pas concernés par cette trêve, alors qu'Israël a bombardé hier l'aéroport de Sanaa, la capitale yéménite. Selon son directeur, les dégâts sont estimés à 500 millions de dollars. C'est une élection unique au monde. Le conclave se réunit à partir d'aujourd'hui, en principe dans une petite demi-heure, pour choisir un futur pape. Les 133 cardinaux électeurs s'apprêtent à entrer dans la chapelle Sixtine où ils seront coupés du monde, sans contact avec l'extérieur, pour démarrer un premier vote. On ne sait pas combien de temps cela prendra avant de voir apparaître la fumée blanche. Avant cela, le cérémonial a débuté avec une messe solennelle dans la matinée à la basilique Saint-Pierre. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Roca.
Les abords de la place Saint-Pierre continuent de se remplir alors que dans une trentaine de minutes, le conclave va officiellement débuter après la procession des cardinaux vers la chapelle Sixtine. Ce matin, une foule importante, sans être impressionnante, était déjà présente pour la messe. Certains ont pu suivre la cérémonie depuis la place Saint-Pierre. C'est le cas de Delphine, française, venue avec des amis de sa paroisse.
On est ici pour faire un pèlerinage justement à Rome. À la base, on l'avait préparé pour pouvoir être à l'audience papale. Notre pape nous a quittés, mais du coup, on a la chance de pouvoir aussi être là pendant l'ouverture du conclave, donc c'est une chance.
Et comment vous avez vécu cette messe ?
Riche en émotions.
Ortizel est étudiante brésilienne. Elle a profité d'un voyage scolaire organisé par son école pour être là. Fervente catholique, elle a dû suivre la messe derrière les barrières.
C'est beau de voir les cardinaux vêtus de rouge sortir de l'église tous ensemble. C'est vraiment une vue magnifique. J'espérais la voir de plus proche, mais c'est super d'avoir les écrans géants pour les voir. Je m'envole pour le Brésil lundi, donc j'espère que le conclave se terminera avant pour pouvoir assister au moment où le pape sera choisi.
Traditionnellement, la première fumée est noire, le premier vote donne surtout une tendance, fait émerger des candidats. Ensuite, les cardinaux seront de retour pour dîner à la résidence Sainte-Marthe, des repas sobres, frugaux, dans l'esprit du conclave. Mais on imagine au menu aussi des discussions afin de dessiner le profil du futur pape. Nicolas Roca, Rome, RFI.
C'est sa première visite en Europe. Le président syrien est à Paris. Il va être reçu par le président Macron dans une heure environ. Invitation qui fait grincer des dents. Des responsables à droite et à l'extrême droite dénoncent le passé djihadiste du dirigeant. Le gouvernement français affirme que ce sera justement l'occasion de faire passer des messages, notamment après les récentes exactions contre des minorités, des messages donc pour la protection de tous les civils en Syrie. Avant cela, c'est Friedrich Merz qui était reçu à l'Élysée par le président Macron à la mi-journée, le tout nouveau chancelier allemand en visite à Paris au lendemain de son élection. C'est la tradition. Les deux dirigeants ont appelé à relancer le moteur franco-allemand, à répondre ensemble aux défis que l'Europe affronte, avec notamment la mise en place de plusieurs groupes de travail communs et un conseil de défense et de sécurité, Emmanuel Macron.
Avec l'Allemagne, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, avec les Américains et toutes les nations volontaires pour parvenir à un cessez-le-feu et créer les conditions d'une paix juste et durable, fondée sur des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Et ensemble, nous devrons également continuer de tirer toutes les conséquences de la menace systémique que la Russie fait peser sur notre sécurité européenne. Pour cela, nous continuerons d'investir dans la défense. Ce réveil pour la défense européenne, nous l'accélérons depuis le Conseil européen de mars et ensemble, nous aurons à rendre opérationnel le plan proposé par la Commission européenne, mobiliser des financements privés et publics pour des besoins capacitaires prioritaires, investir massivement dans notre base industrielle et technologique de défense européenne. Nous allons donc accélérer nos programmes franco-allemands, développer des capacités nouvelles et au-delà des chars, avions de combat, missiles de longue portée, nous allons mettre en place un Conseil de défense et de sécurité franco-allemand qui se réunira régulièrement pour apporter des réponses opérationnelles à nos défis stratégiques communs.
Le président français, propos recueillis par Anastasia Becchio et sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron estime par ailleurs que Moscou ne respectera sans doute pas sa propre trêve annoncée pour 3 jours à partir de demain 8 mai jusqu'au 10 à l'occasion de l'anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Dans la perspective de ces commémorations à Moscou, le Kremlin a annoncé plusieurs mesures de sécurité dont une limitation de l'accès à l'Internet. Le point d'orgue des célébrations sera un défilé militaire prévu vendredi à Moscou. Plusieurs dirigeants étrangers sont invités, dont le président chinois Xi Jinping. La Chine en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, visée par des droits de douane américains astronomiques. Mais la porte des négociations n'est pas fermée. Des représentants chinois et américains devraient se retrouver à partir de samedi en Suisse. Et c'est peut-être en vue d'une désescalade, Nathanaël Vitran.
Signe que les marchés attendent beaucoup de ces discussions, les cours du pétrole sont revenus dans le vert après cette annonce. Pour rappel, Donald Trump a imposé une surtaxe de 145% sur les produits chinois, à quoi Pékin a répliqué par des tarifs douaniers de 125% sur la plupart des produits américains. Une situation qui n'est bonne pour aucun des deux pays. Aux États-Unis, les ports ont commencé à se vider des porte-containers qui d'habitude arrivent d'Asie et les experts s'attendent dans les prochaines semaines à des hausses de prix importantes sur de nombreux produits. En Chine, alors que le gouvernement multiplie les plans de relance, la perte d'un des premiers marchés inquiète tout autant. Pékin insiste tout de même sur le fait que ces discussions se font à la demande des États-Unis. Le vice-premier ministre chinois, Li Feng, assure que son pays continuera de défendre la justice, s'estimant victime d'une agression américaine. Côté américain, justement, Scott Bessent, le ministre de l'économie, a déjà prévenu dans un communiqué « Il ne faut pas attendre un grand accord commercial, mais simplement à des mesures de désescalade. »
Deux mandats d'arrêt émis par la justice algérienne contre l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Son avocate indique à RFI ne pas connaître les motivations de ces mandats, mais serait politique, selon elle, lié à son dernier roman, Houri, pris Goncourt en France, mais interdit en Algérie. Ce livre évoque les massacres de la décennie noire. L'auteur est d'ailleurs poursuivi en France et en Algérie par une ancienne victime de la guerre civile qui l'accuse de lui avoir volé son histoire. L'écrivain lui dénonce une campagne orchestrée par le régime algérien. Et puis une soirée animée en perspective ce soir au Parc des Princes. Demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le PSG espère bien continuer sur sa lancée face à Arsenal et rejoindre l'Inter Milan en finale. Soirée à suivre en direct et en intégralité sur RFI. C'est à partir de 19h TU. Et pour l'heure, on vous retrouve Anne-Cécile Brun pour C'est pas du vent. Bonne émission.